Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole sur Cause Commune 93. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Alors au programme de ce numéro de ce magazine Liberté sur Parole, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Claude Mas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'OIP France, c'est la section française de l'Observatoire international des prisons, et vous venez non pas nous parler, quoi qu'on en parlera aussi sur population carcérale, non pas nous parler des problèmes de droit quant au travail en prison, non pas nous parler de la vétusté des prisons françaises, non pas de l'absence de droits fondamentaux de certains prisonniers, mais vous venez nous parler de l'OIP. On parlera aussi bien sûr de tous ces sujets.
Volontiers.
Mais vous venez surtout parce que jeudi dernier, le 21 mars, a été lancé un appel un peu au secours d'ailleurs de l'OIP qui se trouve dans une situation difficile, financière difficile, un peu étranglée et qui risque de ne plus pouvoir poursuivre ses missions telles qu'il l'entend et telles qu'il le fait depuis très longtemps, c'est-à-dire
plus de 25 ans
d'existence de l'Observatoire international des prisons, de cette section française qui était en 1995, je crois, créée.
95-96,
voilà.
Effectivement.
Ouais. On va expliquer d'où vient cette situation, pourquoi cet appel au secours. Avant, je voudrais qu'on précise, pour les gens qui ne connaîtraient que cet acronyme comme ça de loin, sache un peu ce que vous faites. Alors, on l'a dit, créé en 95-96, l'OIP, par qui, pourquoi ?
Le constat à l'époque était de se dire qu'il y avait peu de regard sur la prison, sur cet univers clos que constitue le milieu carcéral, et qu'il fallait des associations indépendantes qui puissent observer, qui puissent enquêter, qui puissent se faire l'écho de ce qui se passait dans ces murs, de façon à pouvoir s'adresser à l'opinion, au pouvoir public, et dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements, voire d'atteintes aux droits que pouvaient rencontrer les personnes détenues en milieu carcéral. Donc cette idée de départ, elle existe toujours aujourd'hui. C'est pas la seule, c'est-à-dire il y avait cet enjeu pour l'Observatoire international des prisons de pouvoir donc agir pour le respect de la dignité et des conditions de détention des personnes détenues, mais aussi agir pour la promotion d'un moindre emprisonnement dans un contexte politique qui est pas mal pris par une surenchère sécuritaire qui fait qu'on enferme de plus en plus, sans se poser la question du sens de la peine, du sens de la réparation, des effets disproportionnés que peut avoir une peine de prison sur les personnes, en termes de assez destructeurs comme peine. Mais on essaie de tenir les deux bouts. Les conditions de détention et le moindre recours à l'emprisonnement, ça fait partie un petit peu de l'ADN de l'OIP depuis le début, et 25 ans plus tard, un peu plus de 25 ans plus tard, on essaye de tenir la rampe de ce point de vue-là.
Belle mission. Alors effectivement, il s'agit aussi de documenter le quotidien des prisonniers. C'est vrai que la prison a déjà été documentée. Enfin, on pense à Michel Foucault, ça a été documenté d'un point de vue sociologique, idéologique, philosophique. Il y avait aussi beaucoup d'émissions, notamment de radio, où la parole était donnée aux prisonniers, où il y avait la possibilité d'entendre leur voix. Je pense à Radio Libertaire, à Fréquence Paris Pluriel, où il y a eu des émissions de radio très importantes. Mais l'idée de l'OIP, c'est d'être vraiment dans quelque chose qui permet d'être presque dans une action de faire respecter les droits, d'être un organisme indépendant qui aiguillonne au quotidien, qui n'est pas dans une démarche que idéologique, mais aussi de prendre des cas concrets.
Exactement, d'observation de ce qui se passe à partir de la situation de personnes détenues individuellement et de façon aussi collective plus générale, et de pouvoir agir pour faire changer ce qui nous semble être intolérable du point de vue de la dignité et des droits fondamentaux des personnes. Fût-elle incarcérée privée de liberté, elles ont droit à tous les autres droits, sauf celui de la liberté pour certaines d'entre elles. Et encore, on pourrait en rediscuter parce qu'il y a plein de personnes en prison qui ne devraient pas être en prison, qui devraient être pris en charge d'autre manière que la peine de prison. Et donc, notre travail observatoire, ça dit beaucoup de choses, il s'appuie en particulier, vous parliez tout à l'heure des personnes détenues qui avaient la parole, qui s'exprimaient, notre travail s'appuie en particulier d'abord sur la relation directe qu'on peut avoir avec un certain nombre de ces personnes détenues, puisqu'on tient une permanence tous les jours, du lundi au vendredi, où les personnes détenues peuvent appeler l'OIP, puisque nous faisons partie de la liste de la téléphonie sociale qui est indiquée aux personnes détenues en prison, et donc ils peuvent nous téléphoner sans, de façon confidentielle a priori, sans être écoutés, on n'en est pas toujours sûr, pour pouvoir faire état de leurs conditions de détention. Là, on n'est pas sur leurs affaires en tant que telles, qui a conduit à les amener en prison, donc ça nous regarde pas et on s'intéresse pas à ces faits-là, mais par contre, on veut regarder si des personnes, par leur appel, sont contraintes dans leurs droits, dans leur accès à leurs droits. Alors, on a 5000 sollicitations par an de personnes détenues chaque année. Une partie d'entre elles nous appelle pour des questions d'accès aux soins, de santé, parce que il faut savoir aujourd'hui, en lien avec la surpopulation carcérale, mais pas que, il y a des grosses problématiques de santé, des gens qui aggravent leur situation de santé, des pertes de chance en termes de récupération de santé, parce qu'ils n'ont pas accès aux soins, soit spécialisés, soit de façon convenable aux soins en général. 20% donc de ces appels-là concernent la santé. Les conditions matérielles aussi de détention, le non-accès au cantinage, vous savez, c'est le cantinage, c'est le fait pour les personnes détenues de pouvoir améliorer l'ordinaire en achetant des produits en plus
beaucoup
plus cher que sur le marché, ou qui n'ont pas accès au travail en détention, ou qui n'ont pas accès au parloir ou des choses comme ça.
Qui n'ont pas accès au renouvellement de leur papier administratif aussi.
Voilà, des choses comme ça. Et puis le troisième, on va dire, axe d'interpellation, de sollicitation des personnes détenues, ce sont les brimades et les violences qu'elles peuvent rencontrer par l'administration pénitentiaire. Du fait de surveillants qui peuvent, dans ce rapport de domination et au nom soi-disant du maintien de l'ordre, peuvent exercer avoir des dérapages, exercer des violences caractérisées sur les personnes détenues. Donc, dans ces 5000 sollicitations-là, on a un peu tous ces sujets-là qu'on récolte tous les jours, pour lesquels on essaye d'apporter des réponses en liaison avec des avocats, avec la famille. Et puis ensuite, ce qui est intéressant dans cette permanence, pour faire le lien avec ce que vous évoquiez au début, c'est que c'est aussi une possibilité de collecte pour nous de données qui vont nous permettre de pouvoir ensuite, en les recoupant via les différents appels, pouvoir identifier quels seraient les sujets sur lesquels nous devrions travailler, documenter, enquêter pour pouvoir dénoncer de façon plus large ce qui se passe en milieu carcéral. Et de ce point de vue-là, cette collecte de données a permis ensuite d'enquêter sur la question de la santé, pour reprendre cet exemple-là. On a sorti un rapport il y a un an et demi sur l'accès aux soins spécialisés. Il y a quelques semaines, on a sorti un rapport sur la machine disciplinaire en prison avec tous les dérapages qu'on pourra évoquer. Donc c'est toujours sur la base, notamment, de cette collecte de données qu'on peut avoir auprès des personnes détenues et de leurs proches, donc c'est assez important. Et puis ensuite, tout le travail de plaidoyer qu'il y a derrière, mais ça, on pourra y revenir dans les différentes missions.
Donc l'idée, c'est d'abord d'aider les gens, enfin l'urgence, c'est d'aider les gens.
L'information et l'accès aux droits des personnes détenues.
C'est vraiment de que les gens connaissent leurs droits, ça passe par l'édition d'un guide du prisonnier, qui a été, je crois, première publication, hein, c'est vraiment la base, c'est-à-dire c'est le guide qui devrait être, je dis devrait parce qu'il y a, je crois, vous avez lancé des alertes comme quoi ça n'arrive pas partout, hein. Parfois il n'y a pas le guide du prisonnier qui est donné aux gens qui entrent en prison, mais normalement chaque primo détenu doit le recevoir en fait.
Exactement, c'est un ouvrage depuis le début qui est un ouvrage de référence, qui est devenu un ouvrage de référence porté par l'OIP et qui essaye d'apporter aux personnes détenues notamment, mais on se rend compte que c'est aussi les proches qui s'en saisissent, les professionnels type avocat, voire l'administration pénitentiaire des fois qui regardent dedans si elles sont dans les clous ou pas. Et donc c'est un ouvrage qui vise à documenter sur l'ensemble des droits des personnes détenues du premier jour où elles rentrent en détention jusqu'à leur sortie, voire après. Et pas simplement en notifiant des droits en tant que tels, mais aussi en essayant d'expliciter les pratiques administratives qu'il y a autour de cet accès aux droits. Il y a ce que dit le droit, il y a la pratique sur le terrain, et comment les personnes détenues peuvent essayer de entre les deux, de pouvoir faire valoir et de pouvoir revendiquer un petit peu les droits auxquels elles doivent pouvoir avoir accès. Et cet ouvrage, on essaye de le rééditer régulièrement tous les 3-4 ans quand il y a des évolutions du droit législatif et autres qui justifient qu'on puisse changer les contenus, parce que ça, on aborde du coup le quotidien carcéral, on aborde les questions de santé, les questions d'aménagement de peine, les questions de relations aux familles, à l'administration, etc. les droits de visite, enfin un certain nombre de questions, c'est assez volumineux. Et c'est un ouvrage qu'on édite à 6000 exemplaires environ, en partenariat avec les éditions de La Découverte, et 3000 exemplaires sur les 6000 sont effectivement diffusés gratuitement dans l'ensemble des établissements pénitentiaires, dans les bibliothèques pénitentiaires, mmh. et auprès des personnes détenues qui en font la demande.
D'accord.
Après, le reste des exemplaires sont soumis aussi à la vente en librairie. Mais disons que le modèle économique du guide du prisonnier ne nous permet pas d'être à l'équilibre.
Ça oui, fait,
c'est un ouvrage qui est d'abord un ouvrage
de service public.
Voilà, de service public, qui est la référence en tant que telle et qu'on essaye de réactualiser là cette année. On est dans une phase de réactualisation pour en sortir une nouvelle édition à la fin de l'année 2024.
D'accord, donc ça c'est grosse publication et publication, grosse j'allais publication. Dire, historique de cette...
Alors, pas la seule, mais
oui,
historique.
Bien sûr, parce qu'il y a aussi ce magazine, Dedans Dehors, c'est bien ça, Dedans Dehors
Dedans Dehors, exactement,
voilà, trimestriel. Trimestriel, dont le dernier, je crois, c'est la question de la paternité, comment être père en prison. Il y a eu un que j'avais beaucoup apprécié, c'était sur les femmes en prison mm-hmm. aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, elles sont très minoritaires hein, en prison, les femmes, mais quand même elles existent. Quand même, c'est des problématiques particulières. Enfin voilà, il y a vraiment des. C'est à chaque fois, c'est des thématiques qui, rien qu'à même regarder le sommaire de ces magazines, on a une idée, on a une sorte de petite photographie comme ça, quand de l'extérieur, de tout d'un coup des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Ah tiens, ah oui, bah oui, en prison, mais il fait comment pour garder le lien avec ses gosses? Ah tiens, mais une femme en prison et ceci et cela. Et tout d'un coup, on a une percée comme ça dans l'univers carcéral, qui est un univers dont la majorité des gens de la société n'ont aucune idée, en fait.
Exactement. Et pour vous donner d'autres exemples de dossiers sur lesquels on enquête et qui font l'objet de ces revues-là, le prochain, qui sortira au mois d'avril, portera sur l'isolement. Quand une personne détenue est placée en isolement, là, ça crée plein de difficultés et plein de choses qui peuvent se passer qu'on voulait documenter. Au mois de septembre, ça sera sur le suicide. Mm-hmm. On se suicide.
La continuité.
Voilà, malheureusement, tous les trois jours, il y a une personne qui met fin à ses jours en prison. Celles qui sont en quartier disciplinaire, au mitard, on pourrait y revenir, en 15 fois plus de risques de se suicider que celles qui sont en cellule ordinaire, alors qu'en cellule ordinaire, on a 7 fois plus de risques de se suicider que à l'extérieur. Donc vous voyez un peu la problématique. Et puis le dernier dossier de la revue sur la fin de l'année 2024 portera sur l'outre-mer, avec mmh. la problématique un peu plus éloignée physiquement d'ici, où là, il se passe aussi des choses dans les établissements pénitentiaires qui sont très loin des regards et sur lesquels on veut pouvoir enquêter.
On est, alors juste une question naïve, avec une surpopulation pire que dans l'Hexagone.
Une surpopulation encore pire et des possibilités alternatives moins importantes que dans l'Hexagone, alors que dans l'Hexagone, elles sont déjà assez réduites. Et avec un enjeu de pouvoir aussi donner un éclairage sur ce qui se passe dans ces territoires-là, de façon un peu spécifique. Ce qui m'importe de préciser par rapport à cette revue Dedans Dehors, c'est qu'elle est très lue par les personnes détenues aussi. On a parlé du guide du prisonnier, qui est un ouvrage de référence pour la question de l'accès au droit. Là, on est moins sur les questions d'accès au droit dans la revue. Elle est un peu plus généraliste, mais elle est beaucoup lue. On a beaucoup d'abonnés ou de gens qui reçoivent évidemment gratuitement la revue en détention et qui pour qui ça fait partie des bouées un peu de sauvetage auxquelles ces personnes se raccrochent. Et vous avez raison de dire, vous l'évoquiez tout à l'heure, qu'on peut avoir dans certains établissements, la rétention de ces documents-là, comme du guide du prisonnier, de la revue,
avec des gens qui... Certaines des saisines du défenseur des droits sont consacrées à ça. Je l'ai découvert comme ça, en fait.
Exactement. Ouais. Où on est obligé de batailler, de sortir des communiqués de presse pour pouvoir dénoncer le fait que les chefs d'établissement ou des surveillants s'arrogent le droit de ne pas... de limiter l'accès à certaines revues où il y a des prisonniers. Alors, de façon, au niveau national, l'administration pénitentiaire évoque le fait qu'il n'y a pas du tout de rétention et qu'il y a censé être une liberté d'accès totale. Après, dans les faits, on se rend compte qu'en un établissement à l'autre, les choses sont très bien différentes et il faut qu'on reste vigilant pour assurer cet accès.
Oui, pour assurer un peu de droit en prison, parce que c'est quand même un petit peu le royaume de l'arbitraire, il faut le dire. Et la surpopulation, vraiment, c'est un des enjeux enjeux parce que l'arbitraire est renforcé comme la violence par le fait que ce soit des sortes de cocottes minutes avec de plus en plus de monde de prisonniers à l'intérieur, un nombre de personnel constant, c'est-à-dire il n'y a pas forcément plus de prisonniers, pas forcément plus de personnel d'accompagnement, personnel de santé qui sont nommés pour la capacité théorique de la prison et pas pour sa capacité réelle.
Et déjà que sur la capacité théorique, il peut y avoir des vacances de postes assez importantes, qui fait que déjà, en temps normal, pour un établissement de 100 places, il y avait 100 personnes détenues, il y aurait déjà des vacances de postes ou des manquements, dans des trous dans la raquette du point de vue de l'accès aux soins, par exemple. Alors imaginez avec une surpopulation où on passe de 100 à 150 ou 200 personnes, comme c'est le cas dans beaucoup d'établissements, là on marche sur la tête. C'est-à-dire là on est vraiment sur une situation qui est complètement inconcevable et indigne du point de vue du respect des droits des personnes, notamment sur la question de l'accès aux soins.
Ce qui rend encore moins attractif le fait de venir y travailler, donc voilà, exactement. C'est une sorte de cercle très très vicieux qui s'enclenche avec...
Exactement, et avec, pardon, je veux pas vous couper, mais juste un élément pour dire que c'est vrai qu'on met beaucoup en avant en ce moment la question de la surpopulation carcérale, et on a raison, parce que ça aggrave les atteintes aux droits que vous évoquiez. Par contre, la surpopulation n'explique pas tout, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de surpopulation, il y aurait quand même des sujets... de questionnement à avoir sur la façon dont fonctionnent les prisons, sur cette omnipotence du maintien de l'ordre qui fait que du coup on est dans des restrictions plus auprès des personnes détenues. On est quand même dans un endroit où c'est l'univers de l'interdit, de la règle et de la règle à tout bout de champ, qui fait que le moindre comportement est ausculté et évalué avec beaucoup de restrictions et de non accès à des droits simples, fondamentaux auxquels les personnes devraient pouvoir avoir accès. Et donc voilà, la surpopulation aggrave mais n'explique pas tout ce qui peut se passer en prison. Il y aurait des choses à faire même s'il n'y avait pas de surpopulation.
Et puis il y aura aussi des questions de droit, parce qu'on ne sait pas pourquoi le droit du travail ne s'applique pas en prison, pourquoi on peut être payé à faire des tâches répétitives à la pièce, ce qui ne devrait pas exister en droit du travail, et encore le travail est considéré comme un privilège et donne droit à des réductions de peine. Éventuellement, je fais un raccourci, mais c'est assez dingue.
Alors, y a un peu d'amélioration de ce point de vue-là, avec un contrat de travail en milieu pénitentiaire qui a été... réformé récemment, en tout cas c'est un cadre juridique qui s'est posé il y a 2-3 ans, mais qui on est loin du compte, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas de congé, n'ont pas la possibilité de se syndiquer, sont sous-payées par rapport au référentiel SMIC notamment. Alors dans la plupart des cas, ils sont censés ne plus travailler à la pièce, mais bon, on sait quand même très très flexible, et c'est l'entreprise ou c'est l'administration pénitentiaire qui finalement donne le la sur la flexibilité que pourrait du travail en tant que tel, et c'est pas forcément au bénéfice des personnes détenues. Donc on est vraiment effectivement
encore,
là sur un accès de droit.
C'est toujours au bénéfice des entreprises.
Exactement.
C'est-à-dire qu'en fait, on fait un petit peu des cadeaux aux entreprises. Pardon, c'est mon tropisme, mais je peux pas m'empêcher.
En fait,
sur le dos des gens emprisonnés, on fait quand même des cadeaux à des entreprises, ce qui est quand même assez compliqué, éthiquement, quoi.
Exactement. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'enquête et de documentation. On est en train de travailler sur la question du travail pour pouvoir envisager la rédaction d'un rapport d'enquête probablement courant de 2025. On voulait avoir un peu de recul par rapport aux dernières réformes, donc on ne s'est pas jeté dessus tout de suite. Mais on est en train, ça y est, là, de lancer un peu la machine de récupération de matériaux pour pouvoir, dans quelques mois, lancer ce travail d'enquête et pouvoir le documenter et sortir un rapport en bonne et due forme, peut-être dans un an.
Et puis après ça, il y a toute la question, bien sûr. Alors je parle des manquements, ce que vous parliez aussi des manquements au droit. Et puis il y a aussi tout un volet de la mission de la peine, en fait, qui est la réinsertion, qui est quand même un petit peu laissé pour compte. Et là, c'est aussi votre rôle que d'insister sur le volet réinsertion avec tout ce qui n'est pas mis en œuvre en termes même d'accès à l'éducation, à la scolarisation, notamment pour les mineurs.
Exactement. C'est censé être un des objectifs de la prison que de contribuer à la réinsertion et à la non-récidive. Mais on se rend compte à travers nos différentes enquêtes que le primat reste le maintien de l'ordre. Et au nom du maintien de l'ordre, on sacrifie un peu l'ensemble des autres objectifs.
Je dirais même le maintien de l'ordre à court terme. Parce que si j'ai bien lu vos chiffres, je crois que c'est 63% des gens qui sont de nouveau condamnés après avoir une peine de prison. Donc de toute façon, ça fonctionne pas. On met un pognon de dingue à construire des prisons et ça ne fonctionne pas. Donc
exactement,
à un moment, on ne se pose pas la question de l'alternative.
On l'a, on, On évoque la question du logiciel politique qui ne change pas, malgré les dizaines et les dizaines d'années de démonstrations que, comme vous le dites, la construction de nouvelles places ne fait que contribuer à enfermer davantage de personnes et de gens. Il y a que c'est comme si ça alimentait une culture de la sanction pénale et de la sanction de la prison qui se nourrit de cette politique générale un peu de plus de construction de places. Et donc, c'est un cercle vicieux qu'on n'arrive pas à couper. Donc, la réinsertion là-dedans, la non-récidive, et bien finalement, c'est le parent pauvre. Quand vous prenez, par exemple, le budget annuel de l'administration pénitentiaire pour l'année 2024, on a 683 millions, à un million près, j'ai pas le chiffre en tête, qui sont consacrés à la création de nouvelles places de prison, et autour de 53 à 55 millions qui sont consacrés aux alternatives à l'incarcération. Donc, vous voyez, c'est 10 fois moins, voire 12 fois moins que pour la construction des prisons, c'est complètement dément, parce que ensuite on va se plaindre que les gens récidivent, que les gens sont pas réinsérés, que les gens sont haineux et sortent en colère parce qu'ils ont été maltraités en prison. Et donc c'est le vous et moi, on serait si on était enfermés dans 9 mètres carrés avec trois autres personnes, avec un ou l'autre qui dort par terre, avec en cohabitation avec des rats parfois, des punaises et autres.
Ben on sait ça 22 heures sur 24, hein, on est bien
22 heures sur 24, c'est
en attente d'être jugé. C'est-à-dire quand on est présumé innocent.
Dans les maisons d'arrêt particulièrement, on attend d'être jugé ou pour des peines qui de moins de 2 ans, là où on se retrouve avec des maisons d'arrêt qui sont dans une surpopulation qui renvoie à ce type-là de vie au quotidien. C'est comme si on était enfermé dans une salle de bain pendant 22 heures sur 24. Et donc, comment faire en sorte que les gens se réinsèrent quand on les traite de cette façon-là?
Dans une salle de bain, on peut encore prendre un bain ou une douche.
Sans parler.
Ce qui n'est pas le cas.
Voilà, là, je parlais juste de l'espace que ça permet.
Non, mais je plaisante, mais c'est aussi ça, sans accès forcément à l'hygiène, etc.
Là, on est effectivement, l'accès aux douches est très limité. On est quand même dans des cellules où les cabinets sont à vue un peu de tout le monde.
Sans aucune intimité. C'est très dégradant,
dans un état de vétusté et dégradé assez fort. Et là, on parle de la cellule ordinaire, on va dire. On peut parler aussi des sanctions disciplinaires qui peuvent conduire certaines des personnes à aller au mitard, au quartier disciplinaire, qui reste la sanction la plus choisie par les commissions de discipline pour sanctionner les comportements censés considérés comme étant dysfonctionnant ou pas réglementaire des personnes détenues, où là on se retrouve dans des conditions, on est sur une sanction d'un autre âge, le mitard, le quartier disciplinaire, on est dans une espèce de trou avec beaucoup moins de lumière,
tout est scellé
et une vétusté incroyable et des gens qui sont maintenus là jusqu'à 30 jours possiblement de mitard, et avec là aussi, vous le disiez tout à l'heure, pas mal de possibilités d'abus ou d'arbitraire de la part des surveillants. On le constate, nous, à travers beaucoup de témoignages, et qui font que cette sanction-là, d'ailleurs, dans le rapport discipline qu'on a sorti, que j'évoquais tout à l'heure, qu'on a sorti il y a quelques semaines, on demande tout simplement la suppression du quartier disciplinaire, parce que pour nous, c'est complètement insupportable et inhumain de laisser des gens dans cette situation-là.
Je vous propose qu'on écoute un premier titre de musique et qu'après, on est parti un peu comme là sur des chapeaux de roue sur parler de la prison, parce qu'en fait,
c'est
le plus important. Mais en fait, presque tout ce que vous venez de dire, tout ce qu'on vient de décrypter ensemble, ça prouve qu'il y a quand même, on ne peut que constater une politique qui ne fonctionne pas, et c'est peut-être ça qu'on vous fait payer depuis des années en vous coupant vos subventions. On va en reparler juste après la musique.
Fait tard, très tard, bientôt le soleil et Moha n'a pas sommeil. Il veille les yeux vides sur le carreau aride, au mur de sa minuscule cellule. Une cigarette mal roulée se consume et tremble au bout de ses doigts exsangues qui semblent mourir le long de sa jambe. Moha ne bronche pas, les mots sont froids, leur écho se cogne aux parois de cette cage qu'il partage avec un rayon de lune voilé et quelques rats pressés au pas vif et feutré. Par terre, en miroir, s'est éparpillé en mille fragments de verre parmi deux, trois bibelots. Des vêtements, une radio. radio et des livres coincés sous un meuble renversé. Une sale odeur au Roland, d'urine et d'excréments flâne et se pavane depuis que les chiottes sont tombées en panne. La tête dans une volute de fumée diaphane, Moha accroupi au pied du lit serre dans sa main une photo jaunie, une vieille photo où un grand homme droit a mis sa plus belle chéchia. Un grand homme droit que tout le monde fête à son retour de la Mecque. Mais un grand homme droit qui vient de partir dans un ultime soupir. Un peu de sel sur une plaie ouverte. 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 Durant la promenade à l'écart des camarades de misère habituelle et selon le rituel, Moha tourne et tourne puis s'enroule en boule dans des mots qu'il traîne, chuchotés à lui-même, des mots qui malmènent, qui se referment et qui drainent, de lourdes larmes blanches, très vite essuyées d'un revers de manche. Il avait tant à lui dire, tant de choses à finir, rattraper le pire, voir s'esquisser un sourire sur son visage où l'âge avait creusé les entailles d'une trop longue bataille sur des chantiers de ferraille. Et Moha s'injurie, et Moha se maudit en tirant la courte corde de sa chienne de vie. Sans grandes œuvres, ponctuées de basses manœuvres, comme un mauvais fleuve à la sortie de l'échec qu'on lui a vite appris à conjuguer du bec sur des pupitres en bois sec. Les blocs de Nanterre ont des mâchoires de fer et le cachot tire la chasse en effaçant les traces. Un coup de sifflet ramène tout le monde à l'entrée. On se presse encore sans la force d'un effort à l'exacte verticale des miradors. À l'exacte verticale des miradors. Un peu de sel sur une plaie ouverte. Un peu de sel sur une plaie ouverte. Se fait tard, très tard, bientôt le soleil, Moha dort dans lourd sommeil. Au matin, il se rendra à l'atelier souder des pièces d'acier, de quoi payer le miel de sa gamelle. Et puis, si la fatigue se tait, il relira cette lettre froissée qu'il n'a pas pu envoyer et qui semble saigner sous les toits d'ardoise du pénitencier.
Écoutez, la rumeur, c'est le titre, c'était Moha sur Cause Commune 93.1 dans Liberté sur Parole. On est toujours avec Jean-Claude Masse, donc, qui est directeur de l'OIP, l'Observatoire International des Prisons, section française, puisqu'il y a aussi un OIP à l'étranger. Enfin, je crois que c'est compliqué en fait, ça a été créé OIP international, ça a été dissous en 99, entre-temps la section française a été créée et vit toujours, c'est ça ?
Presque, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait une intention au départ d'internationalisation, ouais. En créant avec un secrétariat international qui allait appuyer la création de sections nationales. Mm-hmm. Donc il y a eu une section en Belgique, qui existe toujours d'ailleurs, oui. En France, dans certains pays africains, en Argentine. Et puis l'ambition internationale a un peu périclité, faute de moyens notamment, et donc s'est arrêtée s'agissant du secrétariat international en 99, et les sections nationales sont restées. Celle qui est en France... la nôtre, c'est celle qui a eu la possibilité de se structurer un peu plus que les autres et de perdurer depuis plus de 25 ans maintenant, on le disait tout à l'heure. En Belgique, l'OIP existe toujours, mais plutôt sur un appui bénévole, d'action bénévole. Mm-hmm. Dans les autres pays, malheureusement, l'aventure s'est arrêtée il y a bien longtemps.
D'accord. Alors justement, parlons un peu de l'OIP et on reviendra, parce que de toute façon, vous connaissant, me connaissant, on reviendra sur la prison. Mais parlons un peu de l'OIP. C'est combien de personnes en France ? C'est un peu une machine quand même, parce qu'il faut éditer le guide, il faut éditer le magazine, il faut faire les rapports, il faut avoir des juristes pour aider les gens, il faut avoir des gens pour les écouter au téléphone. C'est une grosse équipe.
Alors vous allez me dire si vous pensez que c'est une grosse équipe, parce qu'en général, quand on évoque l'OIP dans son fonctionnement, les gens sont étonnés en se disant « Ah bon, vous êtes que ça ?»
Bah oui, parce que moi, je dis là, pour faire tout ça, mais il faut, je sais pas, 200 personnes.
Oui, c'est ça. On est 11 salariés, en vérité.
Waouh, 11
On est 11 salariés. Et puis aidé à côté par effectivement des bénévoles, des personnes en service civique, des stagiaires qui viennent nous appuyer parce qu'ils y voient aussi un intérêt dans leur parcours à eux. Mais la réalité de l'OIP aujourd'hui, c'est 11 personnes depuis pas mal d'années. On essaye de porter tous ces bouts-là qu'on a évoqués, donc l'enquête, les permanences, le plaidoyer, le contentieux, la sensibilisation de l'opinion publique, de grand public. Tout ça, on essaye de le mener de front avec aussi des postes qui sont un ou deux postes qui sont aussi pour des enjeux de recherche de financement et puis de l'administration de l'association, parce que c'est aussi important, c'est le nerf de la guerre. On nous voit souvent plus gros.
Surtout quand on voit la qualité de ce que vous sortez.
Merci.
Parce que, bon, voilà, alors moi, vraiment, c'est un jugement en tant que journaliste. Je vois ce que c'est que de faire une enquête un peu. Je vois ce que c'est que d'écrire des papiers. Je vois ce que c'est que de rédiger en français un rapport structuré, etc. Je me dis, à 11, faire tout ça, waouh!
C'est un gros travail, beaucoup de compétences et d'expertise de l'équipe. Vraiment, là, je profite de les saluer parce que, étant arrivé il y a quelques mois à l'OIP, je me rends compte tous les jours de la chance que j'ai d'être au milieu de cette expertise. Là et d'engagement des personnes qui y travaillent. Donc on essaye de tenir ça, ça veut dire que du coup on est sur une structure associative qui n'est pas très, très importante en termes de coûts à l'année. On a un budget qui reste raisonnable, on ne veut pas forcément grossir plus que ça, on veut juste essayer de tenir notre budget et d'être à l'équilibre pour pouvoir continuer à travailler sur l'ensemble des missions qu'on a évoquées. Malheureusement, vous
lancez un appel en disant au secours, on n'a plus de sous et on ne sait pas comment on va tenir, on ne sait pas comment on va remplir nos missions, on ne sait pas comment on va payer les gens qui sont engagés, donc c'est 11 personnes hein, justement. Mais alors justement vos budgets, je crois que depuis des années vous avez vos budgets, normalement on l'a dit tout à l'heure, c'est une mission de service public, d'information, d'accès aux droits de personnes qui, même si elles ont commis des délits, voire des crimes, qu'elles sont emprisonnées, bah, ça reste des citoyens et normalement bah, l'accès aux droits ça ne se discute pas hein, dans une démocratie, donc c'est le rôle quelque part du service public, de l'État. Donc cette mission vous revient et vous l'assumez. Donc en cela, l'État doit vous financer. Enfin, logiquement, hein. Ça paraît assez logique. Mais en l'occurrence, c'est de moins en moins le cas. Les financements de l'État ont beaucoup baissé.
Je pense qu'une société qui se respecte, un État qui fonctionne bien, c'est un État qui est en capacité de financer des garde-fous, des acteurs indépendants de l'État qui seraient là pour rappeler un petit peu le fonctionnement des dispositifs et pouvoir alerter quand ça fonctionne pas. Et effectivement, l'OIP, en 2023, on est à moins de 20% de financement public sur l'ensemble de nos budgets, moins de 20%. En 10 ans, on est passé autour de 67% à moins de 20%. En chiffres euros, on était à 400 000 euros de soutien financier il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est à 100-130 000 euros de soutien financier d'origine publique. Quand je dis d'origine publique, je parle de collectivités territoriales. Et merci à elles, des visites des grandes villes, certains départements, certains ministères, notamment de la santé ou d'autres. Donc merci à ces financements-là, mais ils ne suffisent pas. Alors, avec quand même nous un parti pris, c'est de dire qu'on ne demande pas de financement au ministère de la Justice, parce qu'on veut rester indépendant dans notre action, et donc on ne va pas demander de financement à un ministère de tutelle de l'administration pénitentiaire, face à laquelle on développe un certain nombre d'enquêtes, d'alertes et autres. Donc de ce point de vue-là, on a toujours
ça
eu
cette ligne de conduite. Ça vous évite de vous les voir supprimer, au moins.
On a toujours eu cette ligne de conduite-là, mais ça ne suffit pas à expliquer pourquoi on est si peu financé publiquement aujourd'hui, et donc le reste des financements, on essaie d'aller les chercher. Alors, du côté des donateurs individuels, donatrices individuelles qu'on remercie, on arrive petit à petit à augmenter le nombre de donateurs, donatrices, mais ça reste encore insuffisant. Et puis de fondations, certaines fondations qui nous soutiennent aussi, mais ce n'est pas un sujet qui est suffisamment rock'n'roll, si je puis dire, pour pouvoir attirer beaucoup de financement privé. Ce qui fait que même si on a un petit budget, parce qu'un calibrage d'association qui n'est pas si important que ça, en termes de ressources humaines notamment, on l'évoquait, ça passe pas. Et donc, année après année, on est obligé de renier un peu dans nos réserves. Et là, on arrive aujourd'hui, en 2024, au fait qu'on a quasiment épuisé nos réserves et qu'on est obligé de lancer cet appel à dons d'urgence pour pouvoir à la fois tenir l'année et puis réenclencher un petit peu un cercle vertueux en termes de réserves qui nous permettent de pouvoir continuer notre mission et peut-être travailler sur notre structuration pour ne plus revivre des moments comme celui-là, parce que c'est reste des moments quand même compliqué en ce moment.
Bien sûr, mais alors on fait comment pour vous aider? Alors moi j'étais à voir un petit peu, et sur votre site c'est très bien fait, on peut faire un don en une fois, faire un don mensuel, exactement, trimestriel, semestriel, enfin voilà, on peut donner à peu près ce qu'on veut, quand on veut.
Là, je pense avec un reçu fiscal à chaque fois, voilà, pour permettre aux personnes de pouvoir défiscaliser leur don. Hein. Vous savez, voilà, quand on donne 100 euros, on peut défiscaliser son don. En fait, on ne donne que 33 euros parce que les 66 euros restants seront retirés de la feuille d'impôt. Au
oui,
moment
donc c'est quand même une manière de forcer l'État à vous financer un peu. Mmh. Donc allons-y, hein, parce que c'est, non mais voilà, c'est la part de nos impôts qu'on décide. Donc voilà, on peut pas financer que la police, messieurs dames. Oui. Donc ni que la construction de prison. Il faut aussi financer le fait qu'on puisse y avoir quelques droits.
Parce que vous le disiez tout à l'heure, on est un acteur associatif finalement au service de tout le monde. C'est-à-dire que cette fenêtre-là de possibilité de regard sur ce qui se passe en milieu carcéral, c'est une fenêtre que l'on ouvre à la vue de toute la population, et on n'est pas si nombreux que ça dans le champ associatif à porter cette mission un peu générale d'observation, d'aide, d'enquête, de plaidoyer, de sensibilisation. Et c'est sûr que si l'outil il se casse, qu'est-ce que ça veut dire derrière en termes de regard et en termes de recul des droits des personnes avec lesquelles qu'on accompagne au quotidien.
C'est de toute façon hyper important pour chaque citoyen d'avoir une possibilité d'avoir une fenêtre sur les lieux d'enfermement. Sinon, c'est grave pour la démocratie. Si on n'a pas cette toute petite fenêtre, c'est vraiment très important parce que ça peut arriver à tout le monde. Hein. On croit toujours que c'est que pour les autres, mais non. En fait, c'est à peu près pour chacun d'entre nous. Et à un moment, un jour ou l'autre, on sera bien content de pouvoir avoir quelqu'un à qui apporter des récriminations et de savoir que on n'est pas hors du monde, même si de fait on l'est. Hein, mais qu'il y a quand même possibilité de dire quoi, qu'on n'est pas au fin fond d'une geôle, d'une dictature.
Vous avez raison. Alors, faut reconnaître le travail par ailleurs de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, de la défenseur des droits, qui sont des institutions publiques qui font aussi un travail de visite et de contrôle, mais avec la limite de l'institution et de ce que l'institution peut porter. Nous, c'est vrai qu'en étant associatif et en étant indépendant, on va plus loin dans notre liberté d'expression, dans notre capacité d'enquête, dans les actions en justice aussi que l'on porte, parce qu'on l'a pas encore évoqué, mais c'est un axe assez fort de notre travail. C'est-à-dire que quand on identifie des dysfonctionnements forts, on agit auprès de personnes détenues ou en tant que requérant principal pour saisir les juges nationaux ou internationaux européens de façon à ce qu'ils puissent condamner ou obliger l'État à agir quand on, par exemple, constate des conditions indignes de détention.
La France a été multi-condamnée pour ça.
Notamment, la Cour européenne des droits de l'homme, qui, pour la première fois en 2020, a condamné la France pour traitement inhumain et dégradant. Les mots ont leur importance, traitement inhumain et dégradant dans les établissements pénitentiaires en France. Et l'OIP était un peu à la manœuvre avec d'autres à ce moment-là. Et depuis, en 2024, ces dernières années, c'est une cinquantaine d'établissements pénitentiaires qui ont été condamnés par les tribunaux.
Alors, par exemple, de faire des travaux, etc.,
sur des conditions matérielles en tant que telles, mais aussi pas que. Il y a aussi des injonctions à changer les pratiques administratives et les comportements déplacés, les dérapages quand c'est avéré dans le cadre de rapports. Donc c'est un peu sur différents sujets avec des réponses qui sont assez inégales. On constate aussi une exécution des décisions judiciaires.
Il faut parfois aller en justice pour faire appliquer une décision de justice. C'est compliqué.
On lâche rien. On pense que c'est très important de rien lâcher et on a des expertises là aussi au sein de l'OIP qui portent ça de façon forte depuis plusieurs années. Et c'est un axe fondamental, c'est à côté du plaidoyer, de l'enquête, de la sensibilisation de l'opinion, cet axe action en justice, il est propre à l'OIP. Alors après, on les porte aussi avec des associations d'avocats, donc on n'est pas tout seul à chaque fois, mais c'est vraiment un élément important de notre travail et qu'il faudrait surtout pas réduire, parce que on se rend compte quand même que ça reste un levier, même si certaines décisions ne sont pas exécutées, que l'État continue à regarder et sur lequel il se sent un petit peu bousculé.
Et sur lequel des députés d'opposition peuvent s'appuyer pour porter des demandes, etc., pour aller vérifier sur place, pour interpeller. Enfin, disons que c'est un travail qui porte. En fait. fait, parce que la justice a encore un sens.
Quand le Conseil d'État condamne ou quand la Cour européenne des droits de l'homme condamne, c'est pas rien. Et forcément, l'État doit regarder ça.
Ouais, bon, c'est pas mal. Alors, on va le redire périodiquement dans cette émission. Pour vous aider, on va sur le site. C'est quoi le site ?
OIP.org, www.oip.org. Et là, vous allez voir assez vite, faites un don. Vous pouvez aller directement sur la page de don et puis assez tranquillement pouvoir renseigner si vous voulez payer par carte bancaire. Vous pouvez aussi payer par chèque si vous êtes plus à l'aise avec le papier en nous envoyant des chèques à l'adresse de l'OIP à Paris, 7 bis rue Riquet, 75 019 Paris. Et vous recevrez, dans tous les cas, que ça soit chèque ou que ça soit par un paiement par CB, un reçu fiscal, comme je le disais tout à l'heure, qui vous permettra de défiscaliser ensuite votre don.
On peut s'abonner aussi à la revue de Dents Dehors.
Vous pouvez vous abonner à la revue de Dents Dehors, et bien sûr, ça fait partie des soutiens qu'on peut avoir. Vous pouvez aussi adhérer à l'OIP. C'est aussi important qu'une association
citoyenne... Ah bah oui, parce
citoyenne,
que ça compte quand même voilà, d'avoir des membres.
Qu'une association citoyenne puisse se revendiquer d'un bataillon, pardon l'expression, de citoyens et citoyennes qui adhérentes, parce que ça montre qu'on a une assise et une légitimité aussi à agir. Donc c'est important aussi que ça puisse prendre ce biais-là. Donc voilà, l'adhésion plus le don, si possible.
Les trois, voilà, c'est bien. Être informé, abonnez-vous à la revue. Et c'est vrai que c'est toujours important. Hein,
on sait que l'inflation et que le pouvoir d'achat des personnes n'est pas forcément au beau fixe et a tendance à diminuer. Donc, pour les personnes qui le peuvent, c'est important pour nous qu'on puisse être aidés. Ou des personnes qui ne le peuvent pas, mais qui connaîtraient dans leur réseau des gens qui auraient un pouvoir d'achat un peu plus important ou une potentielle possible de don. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour que petit à petit, voilà, la chaîne des relations permette à des personnes qui peuvent se permettre de nous donner.
Voilà, et puis c'est un acte de résistance aussi, parce que bon, voilà, si vos financements publics ont tant baissé, c'est une question politique, très clairement. Enfin, c'est parce que vous vous dérangez quelque part.
C'est difficile de le prouver comme ça, voilà, mais en tout cas...
Ça se prouve pas, mais ça semble assez évident.
Certes, il y a une réduction de moyens, certains acteurs publics, ça, on peut pas le nier, mais évidemment, pour nous, l'élément principal reste un choix d'orientation, de subvention politique qui fait qu'on préfère financer d'autres structures et pas la nôtre qui dérangeons, qui mettons le doigt là où ça fait mal. Donc ça, c'est à l'évidence, on a eu des réponses du type « nos orientations ont changé, donc on vous refinancera pas ou on réduira nos financements ». Donc ça, c'est une réalité et on peut pas s'empêcher effectivement de faire le lien avec ce qu'on défend par ailleurs et ce qu'on essaye de prôner.
Et ce que vous défendez par ailleurs, principalement, on a parlé un peu de la surpopulation carcérale on atteint des records là en France. Les derniers chiffres de février montrent qu'il n'y a jamais eu autant de personnes emprisonnées en France depuis qu'on les compte. Donc c'est assez dramatique, avec jusqu'à deux matelas par terre dans certaines cellules. On parle de cellules de 9 mètres carrés. Hein. Donc c'est des conditions qui rendent les choses absolument impossibles pour tout le monde. Bien sûr, en premier lieu pour le détenu, mais aussi pour ceux qui sont censés les surveiller, ceux qui sont censés les accompagner, pour ceux qui sont censés les soigner, etc. Donc ça fait des prisons, des lieux de grande violence, des comme vous le disiez, enfin de la fabrique à délinquance aussi, même au sein même de l'institution, hein, parce que quand on est dans des situations de telle tension, il y a forcément des passe-droits, des choses qui fonctionnent pas.
Plus de 76 000 personnes sont enfermées aujourd'hui pour 60 000 places. Avec des 3 000 personnes qui vivent par terre sur des matelas, je le disais tout à l'heure, en cohabitation avec des rats, des nuisibles, donc c'est assez dramatique.
Et en cohabitation avec des gens qui aussi n'ont rien à faire en prison, vous l'avez rapidement évoqué.
Effectivement,
donc il y a beaucoup de gens qui, enfin, j'ai plus la proportion en tête, mais des gens qui auraient plus leur place dans un hôpital, notamment pour des soins psychiatriques.
On est à 20-30% de gens qui ont des troubles psychiques d'entrée en prison et des troubles qui s'aggravent du fait de l'enfermement. Et qui effectivement devraient bénéficier d'un accompagnement autre que celui-là. Si vous rajoutez à ça les personnes qui sont en détention provisoire et qui n'auraient pas de raison d'être parce qu'elles ne représentent pas un danger pour elles-mêmes ou pour la société, il y a plein de gens en prison qui ne devraient pas l'être. On est quand même dans une logique de surinflation pénale en l'espace de quelques années. Sous l'ère de ce gouvernement, de cette majorité-là, il y a plus de 120 infractions supplémentaires punissables de prison qui ont été créées.
Ah oui.
Donc on est dans quelque chose, une espèce de machine qui s'arrête pas.
Une politique
pénale qui ne s'arrête pas et qui va de plus en plus vers l'incarcération, avec les conséquences qu'on s'est dit juste avant, c'est-à-dire qu'on produit de la délinquance. Finalement, la prison, c'est le lieu le plus cher pour produire de la délinquance.
Absolument, c'est vrai. Quand on regarde les alternatives, puisqu'il y en a, et on va y venir. Avant de venir aux alternatives, je voudrais savoir un peu, vous dites qu'il y a une branche de l'OIP en Belgique. Je crois qu'en Belgique, ils expérimentent quelque chose pour désengorger les prisons. En Allemagne, il y a aussi une politique où il y a une sorte de verrou. Au bout d'un moment, quand les prisons sont à plus de 100%, bah, on peut plus. La justice, ils sont obligés de libérer des gens pour en incarcérer d'autres. On a su le faire au moment du Covid quand même. Mmh. Donc, c'est pas quelque chose qui est de la pure utopie de gauchiste comme ça, qui balance ça. Ça a été possible, ça a été réel.
Ça a été possible et la France n'était pas à feu à sang au moment du Covid quand il y a eu 13 000 personnes en moins dans les
prisons. Ni même juste après.
Parce
que on va dire, il n'y avait personne dans les rues, forcément.
Donc, il y a un vrai enjeu en ce moment de discussion par différents acteurs institutionnels, associatifs, sur la régulation carcérale contraignante, mais que le gouvernement ne veut pas, alors que de plus en plus d'acteurs nationaux comme internationaux plébiscitent cette possibilité-là. C'est-à-dire, comme vous le disiez, en Allemagne et dans d'autres pays, si vous avez un établissement de 100 places et que vous arrivez à 100 places, et bien la personne qui est amenée à sortir le plus rapidement dans les 100 sort plus tôt de façon à libérer une place et faire en sorte qu'on ne soit pas en logique de surpopulation. Donc ça, c'est nous, à l'OIP, on considère que c'est une solution intéressante, qu'il faut que ça s'inscrive quand même dans une politique plus large de refonte du logiciel.
Bien sûr, mais c'est l'urgence, là.
L'urgence nécessite ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se reposer la question du sens de la peine, de la place de la prison par rapport aux peines alternatives. On va peut-être y revenir. Mais ça fait partie des leviers sur lesquels il faut agir assez rapidement. Sinon, on va à la catastrophe. On est déjà dans la catastrophe. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a après la catastrophe, mais on est déjà
dedans. En tout cas, il y a des pays qui réfléchissent. Bon, après ça, avec la solution belge, me semble assez étrange, où on va en prison un mois sur deux. Alors, on ne sait pas trop si c'est un mois sur deux, mais avec la même peine, ou alors si c'est finalement ça rallonge la peine d'autant. Enfin, je n'ai pas bien regardé.
Moi aussi, je vous avoue qu'on est un peu circonspect par rapport à cette possibilité-là.
Mais ça prouve qu'ils s'y intéressent. Ça prouve qu'ils ont pris, la mesure du problème.
Exactement.
Ce qui n'est pas du tout le cas en France. On se dit, on va construire une prison. Mais quand bien même, ce serait une solution, de toute façon, ce n'est pas immédiat. Et les gars qui ne vont pas bien en prison, c'est maintenant. Et ensuite, ça veut dire qu'on reste dans cette même logique d'une politique pénale qui va vers toujours plus d'incarcération, des jugements. Enfin voilà, on ne parle pas de la manière dont les gens sont jugés, notamment en comparution immédiate, qui est quand même la porte d'entrée vers la prison. Hein. C'est la première porte d'entrée vers la prison. C'est pour ça que je me permets d'en parler. C'est vraiment aussi... On en vient aussi à, on n'incarcère pas n'importe qui. C'est toujours ceux qui ont qui sont donc en comparution immédiate, donc qui sont jugés sur le fait, j'allais dire.
Une sorte de justice au rabais où les juges n'ont pas le temps d'étudier les dossiers, les avocats non plus, les enquêtes sociales sont très sommaires. On va poser un jugement à 3 heures du matin à la fin d'une audience qui aura duré plusieurs heures, etc.
Et puis une garde à vue qui aura duré 3 jours aussi.
Donc pour les personnes, beaucoup de souffrance à ce moment-là en continu. Quand vous passez en comparution immédiate, vous avez 7 à 8 fois plus de chances d'être emprisonné que si vous passez de façon libre. Mmh. Et donc ça, c'est assez caractéristique. Et qui c'est qu'on enferme à ce moment-là? Mais c'est les gens qui sont plutôt issus des populations les plus paupérisées socialement, parce qu'ils n'ont pas de garantie de représentation à ce moment-là, ou parce que on doute de pouvoir les retrouver pour le moment du procès, tout ça. Alors bon, c'est au final, la prison enferme les plus pauvres, enferme les gens les plus en difficulté, les plus vulnérables, et la comparution immédiate y contribue fortement. Donc de ce point de vue-là, il y a vraiment un enjeu à changer de logiciel et à réfléchir vraiment sur le sens de la peine et qu'est-ce qu'on veut de cette société, qu'est-ce qu'on veut faire. On fait enfin de reconnaître que les personnes, elles vont ensuite réintégrer la société, elles vont ensuite être avec nous et les invisibiliser en les enfermant, en considérant que on verra plus tard, mais c'est se mettre une balle dans le pied dans le vivre ensemble que ça va impliquer derrière.
Et ça commence jeune, puisque en fait les gens de la protection judiciaire de la jeunesse, ils dénoncent la même chose que vous, en fait, que on construit des centres éducatifs fermés et que on baisse les moyens de l'accompagnement en milieu ouvert. Donc en fait, c'est une politique qui malheureusement concerne même les jeunes, enfin les enfants, en fait. C'est-à-dire que c'est une politique générale, il y a une sorte de continuité, en fait.
Alors vous parlez des centres éducatifs fermés, mais il y a aussi beaucoup de mineurs qui sont incarcérés dans des quartiers spécifiquement pour mineurs. Alors c'est beaucoup moins évidemment que les adultes, on est sur 700-800 mineurs à l'échelle du pays, Et je crois que ça augmente un peu en ce moment. Et là aussi, avec des considérations qui sont assez... Les éducateurs et les éducatrices elles-mêmes se plaignent de l'évolution de cette situation-là, avec des mineurs qui sont complètement cassés dans leur repère, dans la prise en charge. Et là aussi, ça produit de la rancœur, de la haine, de la compréhension. Ça déconstruit les personnes, ça désocialise, ça crée de multiples ruptures. Et comment vous voulez rattraper ça derrière? Comment vous voulez travailler avec les jeunes pour essayer de les ramener dans un parcours éducatif quand vous les mettez en confrontation de quatre murs et d'un encellulement qui est franchement destructeur.
Avec des peines en plus assez courtes, qui fait qu'il n'y a pas le temps de mettre en place aucune mesure éducative et même de la scolarisation, exactement, ce qui est obligatoire. Mmh. Donc c'est compliqué. Pour les jeunes, c'est très compliqué. Et puis, encore une fois, totalement inutile, avec aussi beaucoup de jeunes qui, ça pourrait être l'occasion d'apprendre, d'être scolarisé, mais il n'y a pas les moyens de le faire. Il y a des jeunes étrangers aussi. Enfin voilà, c'est.
Exactement.
C'est terrible.
Et on va sortir d'ailleurs dans pas longtemps. En collaboration avec des personnes du SAF, du Syndicat des Avocats de France, qui nous ont aidés sur ce projet-là, un livret d'informations à l'attention des familles dont les mineurs sont récemment incarcérés, pour qu'ils puissent avoir les tenants et aboutissants des droits de ces jeunes mineurs et des familles pendant la période d'incarcération. Donc ça nous semblait être un endroit aussi où il fallait travailler et apporter de l'information vis-à-vis des proches.
Les proches, c'est aussi un de vos soucis. Hein. Je rebondis là-dessus parce que, évidemment, le droit des personnes incarcérées, c'est aussi le droit d'avoir la visite de leur famille. Et ça, vous êtes aussi très attentif à ces droits au parloir, notamment, sachant que c'est un parcours du combattant pour les familles. C'est des heures d'attente. C'est très souvent dans des lieux qui sont loin de chez eux. Les prisons sont presque par nature excentrées. Donc, c'est des heures de transport en commun, de train, de bus, etc.
Exactement. Ce qui veut dire que, quand on parlait du sens de la peine tout à l'heure, vous avez raison d'évoquer la question du parloir, des possibilités de vie des familles, on se rend pas compte aussi de l'impact de la peine sur une personne, sur le reste de sa famille, au-delà des visites, c'est-à-dire l'impact que ça a en cascade pour les proches, qui peuvent être traumatisés de l'événement d'incarcération d'un de leurs proches. Et l'enjeu aussi, ça me renvoie à ce non-droit en prison, qui est la non-possibilité d'avoir un téléphone. C'est-à-dire, dans ces ruptures familiales qu'il y a avec les enfants, avec la famille, on ne comprend pas, nous, à l'OIP, pourquoi, privé de liberté, on ne peut pas, par ailleurs, avoir un téléphone portable qui permette de garder le lien avec les familles. On nous explique que c'est parce qu'il y a des risques d'évasion et que les gens, ils peuvent trafiquer à partir du téléphone. En réalité, dans la majorité des cas, l'usage du téléphone, c'est pour garder un lien et puis socialiser un minimum ces personnes l'extérieur de façon à préparer la sortie. Or, c'est un droit qui est reconnu à tous, qui devrait être reconnu en prison et qui aujourd'hui n'est pas encore reconnu. Et si vous avez un téléphone en prison, vous pouvez être passible d'une commission de discipline ensuite d'une sanction disciplinaire qui va vous amener au quartier disciplinaire dans la majorité des cas.
Mais néanmoins, tout le monde en a en prison presque, mais sauf que ça reste c'est une sorte de petite carotte implicite, et c'est-à-dire que ok, t'as ton téléphone, je fais semblant de pas le voir, mais le jour où je veux t'emmerder, je te fais c'est un pouvoir en plus
rapport,
quoi.
Exactement.
C'est vraiment dans le rapport de force, là on est dans l'implicite, hein, parce qu'en réalité beaucoup de gens ont des téléphones en prison, c'est parce qu'il y a de plus courant comme infraction, mais en même temps ça veut dire que hop, si on veut, si la personne a trop de réclamations, reçoit le magazine de l'OIP, je ne sais quoi encore, hein, là je fais bien sûr, mais c'est pour donner un exemple. Hop, une fouille sans prévenir, et hop, quartier disciplinaire pour la personne qui possède un téléphone. Ce qui est à peu près le cas de tout le monde en prison, il faut quand même le savoir. Donc ça veut dire que c'est pas vraiment toléré, c'est un moyen de pression.
C'est un moyen de pression. Si on veut vraiment travailler sur l'insertion et qu'on arrête de se payer de mots, il faudrait permettre aux personnes détenues de pouvoir avoir accès à Internet, de pouvoir avoir accès au téléphone pour se former, pour préparer sa sortie, pour pouvoir être en lien avec sa famille. Et donc,
pour
contacter la préfecture pour avoir des papiers pour certaines de ces personnes. Et donc, tout ça participerait d'un vrai parcours de réinsertion. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, vous avez raison, il y a quand même des téléphones, etc. Mais sous couvert de la tolérance des surveillants, de passe-droit, et quand on se fait attraper, on risque beaucoup. Donc on marche sur la tête, on nous raconte des blagues quand on nous explique que la réinsertion, c'est un enjeu de la prison. Aujourd'hui, c'est le maintien de l'ordre et puis la docilité des corps et des esprits qui est d'abord mis en avant et qui est d'abord porté avant le reste.
Ouais. Et ça, c'est pas très bon, en fait, pour personne. Et surtout pas pour l'ensemble de la société. Parce que ces gens, ils peuvent... Alors, il y en a qui restent en prison toute leur vie, hein, malheureusement. Mais c'est pas la majorité. Et des gens qui sont passés par là ont été un peu cassés dans leurs repères, ont une vision déformée du monde et de l'humanité. Enfin, voilà, comme quelqu'un qui a été traumatisé, en fait. C'est des chocs post-traumatiques qu'on a quand on sort de prison.
Oui, tout à fait.
Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles, t'es tout écorché. T'es comme un chat triste, perdu sur la liste des objets trouvés. La nuit carcérale, tombant sur les dalles et ce lit glacé. Aller et venir, soleil et sourire sont de l'autre côté. Ces murs, ces grillages, ces portes et ces cages, ces couloirs, ces clés. Cette solitude, si dure et si rude, qu'on peut la toucher. Ce rayon de lune sur le sol allume, visage oublié de celui que t'aimes, qui tire sur sa chaîne comme un loup blessé. Betty, faut pas craquer. Betty, faut pas plonger. Ils t'ont couché là. Et puis ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Betty, faut pas pleurer. Betty, faut pas trembler. Je sais, tu vas rester là. T'aimerais plus te réveiller, plus jamais rêver. Je te dis je t'aime dans ce court poème, dans ce long baiser. Tu es ma frangine, juste une féminine que j'avais rimée. Je te donne ma force, mes mots et mes notes pour te réchauffer. Je hais la morale, les prisons centrales, les maisons d'arrêt.
Voilà, on écoutait Bernard Lavillier, Betty, sur Cause Commune 93.1 dans Liberté sur Parole, où j'ai le plaisir de recevoir encore pour quelques minutes Jean-Claude Masse. Vous êtes donc directeur, parce qu'il y a aussi un président de l'OIP. Et donc, on parle avec vous de l'appel que vous lancez pour avoir du soutien populaire, du soutien financier de nos concitoyens pour ce sujet des prisons et de la vie en prison et des droits en prison qui nous concernent tous. Alors, je crois qu'il y a une tribune qui est sortie jeudi dernier dans la presse.
Qui va sortir prochainement.
Voilà.
Qui va sortir prochainement, une tribune de soutien par un certain nombre de personnalités qui nous suivent depuis longtemps. Alors, je ne vais pas pouvoir tous les citer, ils sont une trentaine, mais beaucoup d'écrivains comme Nancy Houston, Annie Ernaux, prix Nobel de littérature récemment, Éric Vuillard, Gérard Mordilla, Bruno Solo, le comédien, Ariane Ascaride, enfin voilà, pas mal de gens comme ça.
Tous les gens qui sont à la fête de l'humanité, d'habitude.
De belles personnes, et puis y compris aussi des gens du milieu de prison-justice, des anciens contrôleurs de la prison de liberté, Henri Leclerc, avocat, enfin voilà, des gens qui croient en notre travail et qui nous soutiennent. Et on pense que ça peut être un support de communication intéressant pour donner envie au public, à l'opinion de nous aider et de nous soutenir.
Voilà, ce qui est frappant, hein. Moi, je suis journaliste, alors en même temps, voilà, je m'appuie beaucoup, 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 comme tous les journalistes, hein, sur votre boulot qui est extrêmement Merci. Sérieux, précis, documenté. Voilà, vous êtes toujours là quand on a besoin d'un témoignage, de chiffres, etc. Bah, on va peut-être en donner pour terminer cette émission de quelques chiffres. L'idée, c'est de dire que, votre life motif, c'est de dire que la prison n'est pas la seule manière de réprimer, de protéger la société contre la récidive, contre les gens qui ont commis des délits. Il y a des alternatives à la prison. On a été capable, durant l'année 2020, de vider les prisons, parce qu'on a réussi à sortir combien de personnes, en fait ?
13 000 personnes en moins dans les prisons à ce moment-là, et donc on était en dessous du nombre de places des 60 000. Donc ça prouve que c'est possible.
Ouais, voilà. Et qu'il ne s'est rien passé de grave.
Concrètement.
Hein. Ouais, si, le Covid, mais mis à part le Covid, ça, il n'y a pas eu de d'inflation, de la délinquance, etc.
En fait, de toute façon, quand on parlait tout à l'heure de la construction des nouvelles places de prison, on pourrait présupposer que c'est en lien avec l'augmentation de la délinquance sur les 20 dernières années. Or, c'est complètement décorrélé. C'est décorrélé à la fois de l'augmentation de la population, en général, et décorrélé aussi à la fois de l'augmentation de la délinquance, puisqu'elle n'a pas spécialement augmenté cette délinquance-là. Donc, on est vraiment sur des présupposés et sur des perceptions sécuritaires qui ont malheureusement gangréner un petit peu les esprits et qui font qu'aujourd'hui les politiques restent toujours sur ce même logiciel-là. Mais la réalité, c'est que il y a moins de délinquance qu'avant, qui ne justifierait la prison, et donc un enjeu à repenser des peines qui ne soient pas celles de la prison.
Alors,
le travail d'intérêt général, par exemple, pourrait être une peine avec beaucoup plus de sens pour permettre aux personnes de réparer des choses sans pour autant être cassé par l'univers carcéral. Le placement extérieur, qui est
alors
aussi,
c'est quoi le placement extérieur? C'est très mal connu.
Oui, c'est très mal connu, c'est assez peu doté financièrement, même s'il y a des évolutions aujourd'hui. Sur les 53 millions affectés pour l'année par l'État aux peines alternatives, il y a un quart qui est fléché vers le placement extérieur, donc vous voyez, c'est pas énorme par rapport aux 680 millions de construction de nouvelles places. Et donc le placement extérieur, c'est la possibilité qui est donnée aux personnes détenues de pouvoir être accompagnées de façon à l'extérieur par tout un dispositif éducatif, de formation, d'insertion. Alors par exemple, il y a des lieux d'accueil qui sont des fermes, des fermes qui sont notamment certaines associations comme Emmaüs portent ce type de dispositif-là, où les personnes vont exécuter leur peine dans le cadre d'un travail au sein de la ferme et donc dans une logique éducative de réinsertion et qui
d'acquisition
fait beaucoup
d'acquisition de compétences, de formation, etc.
Tout en étant dans cette logique quand même de contrôle du placement extérieur qui fait que les gens savent bien qu'ils sont là dans une sanction, dans une réparation de quelque chose. Donc il ne s'agit pas de dire qu'ils sont libres de tout, mais ils sont dans un dispositif qui fait sens parce que ça participe de leur réinsertion. Donc ça fait partie des peines qu'il faudrait pouvoir développer. Et puis, il y a un enjeu aussi à ce que on puisse créer une peine qui n'intègre pas la prison comme première étape de la sanction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, devant les tribunaux, on va poser une sanction qui, a priori, la prison, qu'on pourra après aménager ou réfléchir sur une alternative. L'enjeu, ce serait de créer une peine qui écarte le recours à la prison en tant que tel et qui puisse être
comme dernier recours en réalité, ce que ça devrait être
exactement, et qui puisse être une peine de probation directe, c'est-à-dire sans qu'on passe par ok on vous enferme mais on va voir ce qu'on peut faire pour pas vous enfermer. Ça peut dans certaines situations c'est le cas aujourd'hui, mais une peine de probation qui exclut le recours même à la prison et qui se porte plutôt sur des enjeux de travaux d'intérêt généraux, peut-être de conditionnalité liée à l'extérieur en termes de par exemple d'obligations de soins ou des choses comme ça. Et donc ça devrait être beaucoup plus développé dans cette logique alternative, et ça l'est pas aujourd'hui.
Il y a des pays où c'est mieux, où c'est plus développé, ces peines alternatives.
Il y a des pays où effectivement on commence à déflationner de façon forte les incarcérations pour penser d'autres modèles, d'autres types de prise en charge, comme les pays scandinaves, comme l'Allemagne, où on évoquait tout à l'heure le fait qu'ils ont fait le choix vraiment de réduire la question d'emprisonnement pour pouvoir le traiter autrement.
Et la peine alternative se développe aussi en Allemagne ou...
De fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on emprisonne moins, les peines alternatives se développent. Là où il faut faire attention, et nous on est vigilants en France, enfin, s'agissant de notre expertise, c'est sur le fait que les peines alternatives soient vraiment des peines qui viennent en remplacement de la prison et qui ne viennent pas au contraire élargir le filet carcéral au sens où ça serait des peines qui seraient attribuées à des personnes qui n'auraient pas fait de prison en temps normal, mais qu'on a, parce qu'ils étaient un peu à la ligne de crête, à la limite, et qu'on récupérait comme ça en leur donnant une peine alternative. Il faut vraiment que les peines alternatives, elles remplacent la prison et qu'elles viennent pas élargir le nombre de prisons qui pourraient, le nombre de personnes, pardon, qui pourraient être sanctionnées à la suite d'un délit.
Il faut aussi être vigilant sur le fait que les gens qui sont en peine alternative ne soient pas juste de la main-d'œuvre corvéable, mais qu'il y ait un réel suivi, que ce soit un accompagnement.
Ça nécessite des moyens, et donc si on construisait moins de places de prison et qu'on mettait les millions qui sont consacrés à ces peines alternatives, je crois qu'on irait dans le bon sens.
Eh bien voilà, un joli mot de la fin. On vous reçoit encore dans un an pour faire le point, ou même on pourrait se revoir régulièrement, vous ou d'autres personnes de l'OIP, pour en parler. C'est un sujet que je lance, mais vous êtes le bienvenu sur Cause Commune quand vous voulez. Merci Jean-Claude Mas, merci beaucoup. Et
merci.
Alors, sur le site de l'OIP, on y va et on clique les bonnes cases, on donne ce qu'on peut, au rythme qu'on veut, mais on le fait. Merci beaucoup.
Et parlez-en autour de vous. Merci
beaucoup. Voilà, on en parle également. Et on devient membre de l'OIP.
Merci de votre soutien.
Merci beaucoup. À très bientôt.
Au revoir.
Zonzon, on t'a vu t'es jury des assises bien trop vite résilie. Ton contrat pour la vie, j't'imagine aujourd'hui engraissé au ravioli. J'en pâlis, pas ni blême, tu disais en garde à vue, pas de blême. Tout ça c'est du déjà vu. Je ne vois que ma haine aujourd'hui, ils t'ont vu. Zonzon. On t'a vu t'es, clic clac c'est le bruit de la clé. Fin de soirée ou début de matinée, tu viens d'arriver. Ta nouvelle vie va commencer, ta liberté s'est envolée. Tu ne l'aurais pas imaginé, ta vie est programmée, minutée. Tes faits et gestes sont contrôlés, surveillés. Ma t'es non-stop, ma ton, ma stock te bloque. J'évoque tes coups de bâton pesant du schnock. Prison égale bâtisse à haute tension, c'est le monde des coups de pression. Attention, des tensions fermes ou provisoires. Du couloir au parloir, il n'y a pas d'échappatoire.
Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne. Pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne. Pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne.
Soulevé pour un délit mineur, t'as frappé un contrôleur, tiré sur un dealer, justicier. Quelle est l'ampleur quand ils se rangent, tem-tem, dans leur classeur. Pour eux, t'es l'élément perturbateur. Les faits restent accusateurs. On donne raison au meilleur des orateurs, à la version du truffion, celle du procureur. Stupeur quand je vois ce mélange de malfaiteurs, du pointeur au kidnappeur, ou l'assassin qui ne sait même pas pourquoi il refroidit. La liste de mauvais plans, elle s'agrandit. Mais le plus grand risque, c'est qu'à ta sortie, t'en gardes le souvenir d'une vie paisible et sans souci. Car si tu rechutes, ils gagneront leur pari.
Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne.
On a aboli la peine de mort par souci de bonne conscience, mais la pire des sentences reste. On ne démolit pas les remords. Dans ta vie pleine d'ennuis, tu médites sur ton sort. Tu végètes sur ton lit comme le fruit qui mûrit. Petit à petit, trop tu pourris. Tu choisis de faire le tour de tes souvenirs. Mieux vaut qu'espérer s'en sortir. Ta joie de vivre aujourd'hui sert à relettre manuscrite et peu de visites. Avoue que tu cogites, via la prison sortiront des amis d'élite. Terrassé par cette vérité, une relation privilégiée lira les rescapés. La tornade est passée, le bateau a coulé, on réembarque ceux qui restent à côté. Famille, amis, dans la même galère, on sait pourtant qu'il n'y a rien à faire. La terre, elle tourne, regarde par la fenêtre.
Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au bagne, pour tous mes frères qui ont la rage et la hargne. Je rappe pour tous ceux qui sont au